a dit « Sky is the limit », le ciel est la limite. Et si la limite aux ambitions était en réalité les nuages, ce qu'un petit garçon d'à peine 9 ans observe depuis sa fenêtre du HLM de Saint-Denis où il grandit. Ce qu'il se promet de traverser avec l'avion qu'il rêve de piloter, comme ceux du Bourget, qui atterrissent pas loin de la cité. Parce que rien n'est jamais trop grand pour un enfant. Cela tombe bien, Yacine Boutagan, notre invité, a décidé qu'il rêverait en grand, comme le ciel géant au-dessus de sa tête. C'est ce parcours de combattant et une dizaine d'autres que je vous invite à venir découvrir tout l'été sur France Inter, les chemins tortueux de ceux obligés de se battre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne les attendait pas. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattants.
Bonjour Yacine Boutagan.
Bonjour.
Merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous avez 36 ans.
C'est bien ça.
Vous êtes né à Saint-Denis, à une quinzaine de kilomètres d'ici, en Seine-Saint-Denis. Vous avez grandi à la cité HLM Allende. Aujourd'hui, vous vivez à Montpellier et vous êtes enfin depuis peu officiellement pilote de ligne après un très long parcours du combattant de plus d'une dizaine, voire même une quinzaine d'années. Nous allons prendre le temps de le décortiquer avec vous, mais d'abord une première question. Comment vous vous sentez aujourd'hui après tout ce temps qu'il vous a fallu pour réaliser votre rêve de gosse?
Alors très franchement, je me sens très très bien. La pression quand elle tombe, on s'en rend pas compte dans les médias. Mais par contre, une fois qu'on réalise le premier jour après avoir passé ses examens, on se dit, excuse-moi du terme, mais la vache quoi.
Ça y est, on y est,
on a fait ce parcours de combattant pour pouvoir réaliser ce rêve se réalise enfin. Bon, l'aboutissement bien entendu, c'est d'être en compagnie, mais quand on le réalise, clairement, on s'en rend pas vraiment compte, limite on se pince encore pour se dire, c'est bon, je l'ai fait,
je
l'ai passé.
Et la prochaine étape, c'est donc de trouver une compagnie dans laquelle vous allez pouvoir exercer.
C'est bien ça, donc soit la compagnie, soit du travail aérien, comme du largage parachutiste, par exemple, pour une première expérience, pourquoi pas. Et il me reste encore des heures de vol à effectuer avant de passer justement au grand bain.
C'est voilà. Tout ce qu'on vous souhaite. Vous avez 9 ans, vous êtes à la maison à Saint-Denis, et là, vous entendez cet énorme bruit. Vous passez une tête par la fenêtre de l'appartement et vous apercevez un avion en démonstration. Le salon aéronautique du Bourget n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre petite tête à ce moment-là?
Je me rappelle très bien de ce moment-là parce que je voyais le marchand de glace qui passait, je demandais de l'argent à ma mère pour pouvoir aller jeter une glace. Et là, ce bruit m'a interrompu, clairement. Et je mets la tête par la fenêtre et je vois cet avion énorme.
Ah oui.
Et je me dis, des êtres comme nous, des êtres humains, peuvent piloter ce genre d'avion. Que ça soit un B2 ou un Boeing 747 ou un A340. Je me dis, des petits êtres comme nous peuvent monter dans des avions qui pèsent des tonnes, quoi. Et je me dis, il faut absolument que je puisse, moi aussi, un jour, pouvoir piloter ce genre d'avion. Voilà. C'est une passion qui m'a attrapé comme ça. Et depuis tout petit, ça ne m'a jamais lâché.
C'était quoi la vie enfant à la cité Allende de Saint-Denis?
Alors c'est pas celle qu'on a actuellement avec les portables, hein. Donc c'est plus le jeu du ping-pong justement. On joue au foot, on joue au billes, on fait du vélo, on s'occupe comme on peut. Et moi justement j'avais cette passion d'avion qui m'avait tout de suite pris. Donc moi je faisais justement des maquettes d'avion. Donc il y a des fois où avec les bâtons de glace j'arrivais
le
à faire.
Le fameux marchand de glace, vous recycliez les petits bâtonnets.
Exactement, pour pouvoir faire ne serait-ce des hydravions ou autre quoi, avec ce que j'avais, avec de la colle, voilà le moyen du bord. Après j'ai vu qu'il y avait des magasins sur Paris qui étaient spécialisés dans les maquettes d'avion et j'allais voir uniquement les modèles et non pas forcément acheter parce que forcément j'avais pas les moyens. Mais sinon j'étais un vrai passionné et ça me dérangeait pas de prendre des transports ou de marcher pour pouvoir aller voir ces avions.
Et cette passion-là, à la cité, vous la partagez avec d'autres enfants ou vous étiez un peu tout seul dans votre univers?
Non, j'étais un peu seul dans mon univers parce que quand j'en parlais, les autres, ils étaient un peu voitures téléguidées et autres, quoi. Moi, j'étais déjà dedans et puis j'en parlais avec des voisins adultes qui avaient, eux, des albums photos avec des avions et moi, j'étais à fond dedans, quoi. Clairement.
Vous êtes le deuxième d'une fratrie de 4 frères et une sœur. Votre sœur est décédée à 18 ans d'une leucémie. Votre mère ne peut pas travailler, elle est atteinte d'hémiplégie. Votre père, lui, est agent de la voirie à la mairie de Saint-Denis. Quelle conscience vous aviez, enfant, du milieu social dans lequel vous évoluiez?
Depuis tout petit, j'étais débrouillard et j'étais très travailleur. Et je savais que pour pouvoir faire ce que j'ai voulu faire, fallait travailler.
Donc, ça, dans c'était très clair dans votre tête dès le début?
Dès le départ, voilà, c'était programmé tel quel. Je me rappelle déjà, même au collège, quand on arrive en troisième, il y a l'orientation. Et la conseillère d'orientation m'avait dit justement ce que je souhaitais faire. Je lui ai dit clairement, je vais être pilote de ligne, je vous préviens. Et voilà, donc sinon pour le milieu social dans lequel j'ai grandi, c'est vrai que directement j'ai vu que ça allait être compliqué. Voilà, il n'y avait pas d'illusion, hein, fallait...
Ça, vous le saviez dès le départ? Comment vous le saviez? Qu'est-ce qui vous permettait de vous dire? Parce que quand on est enfant, après tout, on n'a pas forcément le recul de cette situation-là. Qu'est-ce qui vous permettait à ce moment-là de dire, pour moi, ça va être plus compliqué que d'autres?
Tout simplement parce que je voyais qu'il y en avait qui étaient bien débrouillards dans la mécanique et autres, et moi, j'étais pas du tout mécanique. Et je sais que pour faire de l'aviation, si j'en entendais pas parler autour de moi, c'est que c'était forcément compliqué. Voilà, donc fallait aller chercher l'information. Et donc il y a ma mère qui a essayé d'avoir des écoles et elle s'est renseignée. Et quand elle a vu les tarifs, elle a dit « Oh mon Dieu, c'est trop cher, je peux pas. Je suis désolé mon fils, mais ça va être compliqué. » Et là, j'ai su que fallait que je me batte justement pour pouvoir y arriver et sans vraiment compter sur les autres, mais tout seul, quoi.
Et comment on le vit, du coup, quand on a 9 ans et qu'on a ce rêve-là avec ces avions qui passent au-dessus de soi? Est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est tout simplement dans l'incompréhension de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on se dit?
Moi, ce que je me suis dit qu'il fallait se battre, ça c'est sûr, de toute façon. Parce que avec ma mère, chaque année, on allait en Algérie, en avion, et j'avais cet avantage de pouvoir aller dans le cockpit. Donc le fait de voir ça, étant petit, j'avais toujours une source de motivation derrière qui me poussait à y croire et à me dire, je vais y arriver un jour, il y a pas moyen, faut que je me batte pour ça. C'était une confirmation. Quand je suis rentré la première fois dans ce cockpit, c'était la confirmation pour moi.
Donc, grâce à qui vous rentrez dans ce cockpit?
C'est ma mère qui demandait directement au chef de cabine si je pouvais aller visiter le cockpit en plein vol, etc. Et oui, franchement, c'était magnifique. C'était une chose. Donc certes, on est pris au coup parce qu'on voit plein de boutons, on se dit oh la vache, mais à quoi ça sert tout ça? On est perdu tout de suite et ça nous met un froid. On se dit, est-ce que je vais y arriver finalement? Et voilà, je me suis donné les moyens pour et je me suis dit, je vais me donner les moyens pour. Et j'ai travaillé pratiquement jusqu'à maintenant pour pouvoir y arriver.
Vous parliez de ces voyages justement jusqu'en Algérie. C'est le pays d'origine de vos parents, c'est là qu'ils sont nés. Quel lien vous avez gardé justement avec l'Algérie?
Toute ma famille est là-bas. La seule famille que nous avons ici, donc c'est mes frères, ma mère et mon père qui lui maintenant est à la retraite et vit en Algérie. Et le lien que j'ai, il est très rapproché avec ma famille en Algérie aussi, qui eux sont très fiers d'avoir appris justement que j'avais réalisé la dernière étape. Et sinon, si je peux travailler pour Air Algérie ou une autre compagnie, je serai très heureux.
Est-ce que vous ressentez un décalage entre votre vie d'aujourd'hui et votre vie d'avant? Votre vie d'aujourd'hui à Montpellier, maintenant officiellement pilote de ligne, et votre vie d'avant à la cité Allende de Saint-Denis?
Là, j'ai passé mes examens sur Paris, donc du coup, je suis chez ma mère. Et quand je croise encore des personnes ou des amis, des anciens amis qui me croisent, ils sont super fiers, super contents. Et c'est l'image d'une personne qui a réussi à Saint-Denis. Et quand on arrive, on peut aller jusqu'au bout. Et sinon, à Montpellier, la vie est totalement différente, c'est clair. Je vous le cache pas. Je suis pas loin de la plage. J'ai des amis, j'ai rencontré pas mal de très bonnes personnes pendant ma formation. Et je suis aussi du côté de Lézignan, à laquelle j'ai tissé des liens pour pouvoir former des futurs pilotes de ligne sur Boeing 737 en simulateur. Et sinon, quand je reviens à Saint-Denis, c'est vrai que j'ai toujours cette nostalgie de me dire, quand j'étais petit, j'étais là, je dis, oh putain, j'étais ici, et puis voilà où j'en suis maintenant, quoi. Donc il y a cette nostalgie, je suis toujours un peu attaché à cette ville, mine de rien. Même si elle a une mauvaise image, on peut s'en sortir vainqueur, quoi. Clairement.
Et ce décalage social, qu'est-ce qu'il crée chez vous? Comment vous réussissez à vous en adapter?
Je m'adapte parce que je me suis dit, je me dis que j'ai été dedans, je les comprends, les personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir ou qui ont des rêves et qui ne croient pas vraiment ou il y a un manque d'accompagnement. Mais moi, j'ai eu cette chance d'avoir tout fait seul et d'avoir réussi, d'être l'exemple. Et donc, le décalage pour moi, j'arrive à le voir quand je suis à Montpellier par rapport à Saint-Denis. Ce n'est pas la même chose, dans le sens où justement il y en a qui sont plus en galère sur Saint-Denis qu'à Montpellier. Voilà. Mais par contre, moi, quand je viens à Saint-Denis, si on me demande de témoigner, si on me demande de l'aide ou si on me demande une orientation, il n'y a pas de souci, je peux répondre sans aucun problème et je serais même heureux de le faire.
Il en a fallu du chemin avant que vous puissiez être le pilote de ligne que vous rêviez de devenir à 9 ans, accoudé à la fenêtre de l'HLM de Saint-Denis. Orientation subie, pas d'argent, le déterminisme social bien concret, bien réel, dont vous ferez absolument tout pour vous débarrasser.
Que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près. Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit-on mètre près. Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleuves. Je peux pas te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais qu'au bout des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes. Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. S'éparpille ici, tout le monde ne regarde personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais.
C'était Gaëtan Roussel et le titre « Est-ce que tu sais ?»
France Inter, parcours de combattant, Nassira El-Mohadem.
Nous sommes toujours en compagnie de Yacine Boutagan. J'en profite pour remercier Valentine Cheudebois pour la programmation musicale, Mao de Butler de m'avoir aidé à préparer cette émission, Fanny Cohen-Moreau qui la réalise et à la technique Guillaume Roux. Quel souvenir vous gardez de l'école, Yacine ?
J'étais plutôt bon enfant. Sérieux, sportif aussi. Et ce que je garde comme souvenir de ces écoles, ben du coup j'étais pas très loin, donc à Saint-Denis j'étais à Dièze, l'école Dièze, en primaire. Ensuite je suis passé à Henri Barbusse où ça s'est très bien passé, et de là justement vient l'orientation, comme j'en parlais vaguement tout à l'heure. Je disais justement que je voulais être pilote de ligne, et cette dame justement me disait ben, je vous vois plus plombier ou mécanicien.
Justement, votre rêve, c'est donc de devenir pilote de ligne. Vous l'avez exprimé assez tôt, hein, au collège.
Exactement.
À vos professeurs, à la fameuse conseillère d'orientation. Vous lui demandez comment faire. Et alors là, elle vous répond que ce n'est pas possible pour vous. Et elle vous conseille plutôt des voies comme la plomberie ou bien encore la mécanique. Est-ce que vous vous souvenez comment vous aviez réagi à l'époque, du haut de vos, à quoi, 13, 14 ans?
Bah, je me rappelle d'être frustré, clairement. Parce que je me suis dit, je m'attendais pas du tout à ce genre de réponse. Je m'attendais plus à une orientation, à un conseil. Et là, quand on m'annonce ça, j'ai dit bon, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire du coup? Ben, j'en ai parlé à ma mère, qui elle m'a dit de toute façon, faut que tu continues tes études. Donc va là où tu vas aller. Et puis j'ai fait de la comptabilité justement à Bartholdi.
Ouais. Donc l'idée, c'était plutôt de suivre les conseils des profs et de cette fameuse conseillère, parce que de toute façon, il n'y avait pas d'autre choix.
Malheureusement, non. Il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre voie, d'autre issue pour moi. J'ai écouté le conseil de ma mère qui m'a dit de continuer, j'ai continué, mais j'avais cette frustration toujours présente, et je n'arrivais pas à m'en détacher. Mmh. Et de là, justement, je crois que c'était 2 ans après le lycée, il y a un salon du Bourget qui se présente, justement. Et là, j'ai dit, je me présente, j'y vais, je vais voir. Et là, comme par hasard, des écoles sont présentes. Et là, je me renseigne et je lui dis, c'était aussi simple que ça, quoi.
Fallait juste aller
se déplacer, voilà, c'était juste à côté.
C'était à quelques kilomètres à peine.
C'est exactement ça.
Et votre papa, votre grand frère aussi, puisque vous avez un aîné, qu'est-ce qu'il pense de vos rêves?
En fait, mon grand frère me disait, mon grand frère et mon père, les deux, justement, ils disaient qu'il fallait arrêter de rêver, de laisser ça pour les autres qui ont, entre parenthèses, les moyens et les capacités pour y arriver. Mais moi, comment j'ai ressenti la chose, c'était manque de confiance, peut-être, envers mon père et mon frère, qui me faisaient pas assez confiance pour pouvoir y arriver, pour pouvoir me lancer. Et là, j'ai dit, de toute façon, j'ai travaillé, j'ai économisé pour, je me lance sans regret.
Et vous le viviez comment, ça, les propos de votre papa? Parce qu'on peut le comprendre, évidemment.
Bien sûr.
On se dit, voilà, on veut quelque chose de réaliste pour son enfant, parce qu'on est bien conscient des difficultés. Mais vous, vous étiez adolescent, comment vous viviez ces mots-là?
Bah, ça me fait penser un peu à ces jeunes qui veulent être footballeurs, et leurs parents, ou chanteurs, et leurs parents, ils disent, non, mais faut arrêter, au bout d'un moment, fais des études, travail, et quelque chose de concret, quoi. Et ben moi, dans ma tête, justement, tout était déjà programmé, c'était du concret. Le fait de pas avoir leur soutien d'un côté, ça m'a un peu frustré. C'était chiant, clairement, parce que j'arrivais pas à avancer, et j'avais l'impression d'être seul face à tout le monde, clairement. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de vivre avec des regrets, et je me lance, quoi.
Finalement, vous vous dirigez donc vers un BEP comptabilité au lycée Bartholdi de Saint-Denis, qui est situé juste à côté de chez vous, sans aucune conviction, on l'a bien compris. Mais vous ne lâchez pas votre rêve. Vous démarrez un parcours du combattant pour financer votre brevet de pilote privé. Vous faites le tour des écoles d'aviation, de la région parisienne, à scooter.
En scooter, c'est
bien ça. Vous êtes avec votre scooter en train de faire le tour des écoles.
Exactement. Donc, j'avais un 50. Donc, je me rappelle de l'endroit, c'était à Toussus-le-Noble. Donc, pas forcément à côté, il fallait passer par le 78.
C'est ça, c'est dans les Yvelines, la limite avec l'Essonne. Donc, on est vraiment assez éloigné de la Seine-Saint-Denis.
Pour vous dire à quel point j'étais motivé, donc j'avais ce fameux scooter et du coup, j'ai fait la route plusieurs fois. Donc, la première fois, c'était pour démarcher les écoles, voir leurs tarifs, voir ce qu'ils proposaient, quelles étaient les conditions, etc. Et de là, la deuxième fois, je suis revenu pour pouvoir m'inscrire. Donc, j'ai commencé à passer le brevet de pilote avant même de passer le permis conduire.
Avant d'y arriver, comment réagissaient les directions d'établissement que vous démarchiez? Est-ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir des gens comme ça, aussi déterminés que vous, mais très éloignés de cet univers-là?
Non, du tout, parce qu'en fait, je me rappelle de l'école que j'avais faite, enfin plusieurs d'ailleurs, et ils avaient tous, les élèves étaient tous déjà équipés. En soi, que ça soit le matériel aéronautique ou autre, ils avaient les aides financièrement, donc les aides des parents, etc. Et moi, j'avais vraiment l'impression de venir du fin fond du Far West, quoi. J'étais vraiment loin avec mon scooter, un peu, voilà. Et je venais comme ça pour me démarcher. Et eux, c'est vrai qu'ils avaient jamais vu ce genre de personnage qui vient de loin en scooter, motivé comme ça. Et puis voilà, ça montrait ma détermination.
Absolument. Vous trouvez celle qui vous convient, donc la fameuse école de pilotage à Toussus-le-Noble. Elle coûte extrêmement cher et il faut aussi financer les heures de vol. Ça vous coûte combien au total?
Ça m'a coûté à peu près 12 500 euros que pour le vol, le brevet de pilote privé. Le PPL, justement. Et après,
Et alors, comment vous faites pour trouver cet argent?
J'ai travaillé, j'ai fait pas mal de travail. Si je vous présente mon CV, il fait au moins 2 pages.
Mais on veut savoir que tous les métiers que vous avez pu exercer pour
arriver jusque-là. Alors, j'ai fait barman au Club Med, j'ai fait Radisson Hotel, donc nettoyage de chambre. J'ai fait vendeur, j'ai fait...
Majordome, je crois.
Majordome, c'est ça.
Équipier chez le célèbre fast-food américain. Vous avez fait aussi vendeur en prêt-à-porter, manutentionnaire, adjoint de gouvernant. En fait, vous avez tout fait, quoi.
J'ai pratiquement tout fait. C'est pour ça que j'ai de l'expérience un peu partout. Donc, je suis content. Mais d'un côté, on m'a dit, non, fais pas trop parce que si jamais tu postules avec un CV pareil, ça va être un inconvénient. Et quand on me posait des questions à chaque fois que je travaillais, c'est pourquoi vous êtes parti? voilà pourquoi. Parce que je voulais réaliser mon rêve.
Et alors, tout ça sans jamais rien dire à vos parents, parce qu'en fait vous ne leur dites pas.
Non, dans les médias, je leur dis pas tout de suite. Non, du tout. Je leur dis pas dans les médias parce que mon père, pour lui, c'était de travailler comme lui, parce qu'une personne qui vient d'Algérie pour travailler en France, c'était un exemple. Et pour ma mère ou pour mes frères, je n'ai pas présenté la chose dans les médias. Donc j'ai travaillé, j'ai économisé et j'avais justement 2 objectifs.
Comment vous le vivez, ça, de ne pas le dire à vos parents? Est-ce que c'est une frustration pour vous de le vivre un peu tout seul, caché de votre famille, ou c'est une excitation supplémentaire?
Il y a un peu des deux, une frustration de ne pas pouvoir le dire parce que justement j'aurais aimé partager ce projet avec ma famille, clairement. Et d'un côté, je suis excité parce que justement je me rapproche de mon objectif. Donc je me dis la frustration, on la met de côté, on garde l'excitation et après on annonce, et je pense qu'une fois qu'on est lancé, ils seront que fiers de leur fils, quoi.
En parallèle, est-ce que vous continuez vos études?
Là actuellement non.
Mais à ce moment-là?
À ce moment-là? Oui, j'ai terminé justement le lycée.
J'ai terminé le lycée.
Une fois que le lycée était terminé, clairement, je me suis lancé pleinement dans le travail.
Vous finissez par intégrer la fameuse école de Toussus-le-Noble, celle où vous étiez allé avec votre petit scooter, là, 10 ans plus tard, en 2012. Racontez-nous votre premier vol. Moi, j'ai envie d'être à vos côtés, là, enfin plutôt derrière, à vous observer. Concrètement, qu'est-ce que vous ressentez comme sensation lors de ce premier vol?
Alors, quand je suis venu, j'ai vu le hangar, donc c'était une grande baie vitrée, il y avait plusieurs avions, donc des Cessna 172. Et la première chose que je me suis dit, ça y est, là, on est là. On va y aller.
Le
grand saut, quoi, parce que je faisais du simulateur, mais ça n'avait rien à voir. Et là, l'instructeur vient me présenter l'avion, me dire ce qu'on va faire, comment fallait faire la démarche de la visite prévol, donc qui est justement de vérifier que tout va bien avec l'avion. Ensuite, on est dans la cabine. Et là, franchement, quand je me suis mis dans la cabine et j'ai vu le manche, j'ai dit, c'est pour de vrai.
Là, c'est pour de vrai. Et vous pouvez pas faire marche arrière.
Ah non, du tout. Et je me rappelle, j'avais mon premier diplôme de vol à ce moment-là. C'était ma première marche, justement, et la concrétisation du début de ma carrière.
Mais tout ça n'est en réalité que le début.
Exactement. Nouveau,
vous devez travailler encore une fois. Et là, pendant 3 ans, pour vous payer cette fois-ci une nouvelle formation de pilote de ligne. Pendant 3 ans, vous allez travailler à la confection de pneus chez Michelin à Troyes.
Exactement.
Pour financer tout cela. Vous faites votre rentrée dans cette nouvelle école en 2017. Et cette formation, vous venez à peine de la terminer là.
Exactement.
Au total, entre votre premier job et la fin de votre école, cela vous prend plus d'une quinzaine d'années pour arriver à devenir pilote de ligne. En temps normal, ça prend combien de temps?
Alors, avec les fonds, si on a les aides, etc., très franchement, on peut compter entre 3-4 ans. Voilà, clairement. Si on se lance de zéro à la concrétisation, 3-5 ans maximum, à peu près. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps parce qu'il y a eu des contraintes dans ma vie entre-temps. Donc, il y a le côté financier et mon côté, moi aussi, qui est familial. Donc, ma fille, ma conjointe, justement.
Oui, parce que vous avez une famille maintenant.
Exactement, j'ai mis entre parenthèses l'aviation quand il y a eu la naissance de ma fille. Ouais. De là, donc j'étais très heureux, je regrette pas du tout, mais loin de là. Et c'était une source de motivation supplémentaire pour moi, tout simplement.
Elle est où, l'égalité des chances dans tout cela?
Très compliqué.
Est-ce qu'elle existe vraiment?
L'égalité des chances, oui et non, parce que là, moi, clairement, je me suis débrouillé, donc je pourrais pas répondre directement. Et je sais que l'égalité des chances, de mon côté, ce qu'on voit, c'est la motivation et la passion. Et pour d'autres, je ne saurais dire, malheureusement.
Quel impact tous ces sacrifices, ces efforts ont sur le moral et sur la construction du jeune adulte que vous étiez? Parce que tout ça, ça a quand même un coup psychologique.
Exactement. Donc le coup psychologique pour moi, c'était justement à la naissance de ma fille, donc les 2 premières années. Avec ma conjointe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je continue ou pas? Parce que clairement, ça prend du temps et de l'argent.
Et de l'argent.
Exactement. Donc le temps, je l'avais, il n'y avait pas de souci. Et l'argent, je l'avais aussi parce que je gère ma famille comme il se doit. Mais par contre, la passion, elle, elle était déjà entamée. Enfin, je veux dire, la formation était déjà entamée. Et quand on entame une formation dans l'aviation, il y a un chronomètre qui est lancé, qui est de 18 mois pour la réalisation de la totalité des diplômes. Donc du coup, j'avais... énorme pression parce que je me suis dit il faut que je m'occupe de l'éducation de ma fille, il faut que je m'occupe de faut que je sois présent quoi clairement. Et j'ai été présent et après j'ai vu que justement en parallèle mine de rien, je continuais à réviser, je prenais les livres, je faisais les QCM, les questions et je m'en sortais très bien. Voilà, j'ai fait mon premier passage en français, j'ai échoué. J'ai réussi quelques modules mais j'en ai échoué d'autres et je me suis dit pour pas avoir ces échecs, je repasse tout en anglais. Et là, encore un travail supplémentaire, tout en anglais, une pression supplémentaire. Et par contre, quand je l'ai passé, bah, je l'ai eu du premier coup.
Bravo. Il y en a eu tout de même des gens qui ont cru en vous, et même très tôt, comme Paul Cornec, votre instituteur de CM1, qui vous a laissé un message vocal.
Yacine, on s'est connus à Oscar Romero, une toute petite école pour les enfants en difficulté scolaire. À l'époque, tu n'étais peut-être pas très doué dans les matières scolaires. Mais je me rappelle que d'autres qualités émergeaient, une grande sensibilité, une intelligence pratique, le tout assaisonné d'un humour communicatif. Cette école était située à une centaine de mètres du parc de la Courneuve, et quand se tenait le salon aéronautique du Bourget, tu t'en souviens, toute l'école se déplaçait et on s'allongeait dans l'herbe pour admirer le ballet silencieux des Airbus ou les acrobaties des rafales dans un bruit assourdissant. J'ai suivi ton parcours de loin en loin, d'abord sur Facebook, puis en questionnant tes frères avec lesquels je suis resté en lien. Je pensais que tu étais comblé, mais non, tu visais plus haut. Ton grand frère avait l'habitude, en rigolant, de t'appeler dormeur ou rêveur. Il disait que tu étais souvent dans les nuages. Tes rêves t'ont conduit à survoler les nuages. Ton parcours est merveilleux. Il comble de fierté tous ceux qui ont cru en toi. Pour ma part, je suis heureux d'avoir été un élément dans la chaîne des rencontres successives qui t'ont aidé à devenir ce que tu es. Bon vol, Yacine.
Ah, ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Mais je savais qu'on m'appelait rêveur, mais d'envers comme ça, venant de mon frère.
Il a représenté quoi, cet instituteur, pour
Alors,
vous, dans votre parcours?
Cet instituteur, justement, s'occupait de mon grand frère, qui, lui, avait un passé à part. Donc du coup, ce directeur d'école justement a apporté son soutien et puis en même temps essayer de motiver mon grand frère pour pouvoir travailler. Et puis moi, mon grand frère, c'est un exemple et j'avais envie d'aller à la même école que lui. D'ailleurs, on s'est tous retrouvés les trois à la même école. Et ce professeur, quand je lui parlais de quelque chose, j'ai l'impression qu'il avait toujours la réponse à tout. Donc ça m'intéressait amplement quand je voyais l'avion venir et sortir. Maintenant, je sais ce que c'est le train d'atterrissage. Je disais ouais, il sort ses roues. Et il disait non, ça c'est le train d'atterrissage. Je m'en apprenais tout le temps quoi. C'était magnifique.
C'est lui qui vous initie en fait aux notions d'aviation.
C'est ça.
Parce que c'était lui-même un passionné.
Il n'était pas passionné, mais il avait les connaissances. Et moi, je cherchais ça justement parce que dans mon entourage, il n'y a personne qui connaissait vraiment ce que c'était un bord d'attaque ou bord de fuite. Là, je vous parle des termes techniques par rapport au fuselage de l'avion. Mais par contre, lui, il les connaissait et ça me plaisait amplement, quoi. Et c'est pour ça que j'hésitais pas à poser des questions pour savoir. Et puis, il suffisait qu'il me le dise une fois pour que je puisse le retenir.
Soldier, come on.
C'était Chris Corner et You're the Conversation.
Nassira El Moadem. Parcours de combattant sur France Inter.
C'est vous qui avez choisi cette chanson, Yacine Boutaghan.
C'est bien ça.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson ?
La source de motivation, clairement. Donc quand j'ai été au plus bas, je l'écoutais et ça me motivait. D'ailleurs, en l'écoutant, j'ai eu des frissons parce que je me suis replongé un peu en arrière.
Et, oui.
Et encore dernièrement, je l'ai écouté.
C'était le principe hein, de vous faire écouter ce type de chanson.
J'ai eu encore des frissons là parce que je me suis dit, la dernière chose que j'ai faite, justement, quand je suis revenu chez moi, après avoir passé les derniers examens de pilote de ligne, j'ai mis mes écouteurs, j'ai prévenu tout le monde. Et après, en écoutant la musique, c'était cette musique. Et je me suis dit, putain, ça y est, c'est réel.
Ça y est. Et c'était aussi une des chansons que vous écoutiez à Michelin.
Exactement. Donc, quand j'étais à Michelin, il y avait une dame âgée, justement. Je lui avais dit comment.
Qui travaillait là-bas.
Qui, je lui avais dit comment pouvoir financer, justement, ce qu'il y avait des aides pour pouvoir devenir pilote de ligne. Et s'il y a une aide, je serais preneur, quoi. Elle me disait non, mais il y a une solution. Je lui dis déjà, quand elle m'a dit non, je lui dis bon, bah voilà, encore une fois de plus, un non. Pour pas changer.
Vous êtes habitué.
Je suis habitué, il n'y a pas de souci, on va aller à l'encontre, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit c'est quoi le mais ? Elle me dit le mais, c'est de faire un fonds GESIF, justement, de pouvoir financer sa formation. Donc, c'est un droit, tout le monde a le droit. Et après, sur présentation, justement, de dossier, soit il est accepté ou soit il est refusé. Là, je me suis dit, bon, bah, on est parti pour 2 ans. Donc, à Michelin, je travaillais et il y avait ce directeur DRH, Yannick Brachy, qui m'a dit, bon, ben, voilà, par rapport à ton parcours, tu n'as rien à faire dans la confection de pneus. Je vais t'aider, justement, moi, à réaliser ton rêve. Donc, il m'a aidé à réaliser ce rêve. Donc, il m'a accordé le fonds GESIF. Et ça, c'est une partie. Après, il y a la présentation du dossier auprès du jury. Et ça, là,
une autre paire de manches.
Ah, j'ai vraiment flippé parce que, justement, c'était, on va dire, j'étais en Champagne-Ardenne à 3 à ce moment-là. Et quand il y a eu la présentation de mon dossier, je me rappelle ce jour-là, j'étais pas bien du tout et je faisais les courses avec ma fille et ma copine justement à ce moment-là. Et j'ai reçu un appel de ma conseillère justement qui me dit c'est pas évident à vous dire, mais vous êtes la personne la plus chère à financer. Elle dit on avait le choix entre financer 5-6 personnes pour pouvoir faire du PTP ou autre, ou sacrifier ces personnes-là pour financer une seule personne.
C'est-à-dire vous.
C'est-à-dire moi. Là, je me suis dit, oh putain. Là, je suis mal barré. Là, je suis mal barré. Ça veut dire non, quoi. Et elle a dit, et on vous a choisi. Et là, j'ai crié, j'ai fait pas les cons. J'ai dit, oh non, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai dit, c'est vrai. Elle me dit, oui, félicitations, on vous a choisi, vous, parce que votre dossier était bien présenté. Il y avait un article sur moi, il y avait un travail, il y avait tout qui a été fait.
Et alors, du coup, on salue Yannick Brachy,
exactement.
Et cette dame,
dont j'ai oublié le nom, malheureusement.
On la salue aussi.
Je la salue. D'ailleurs, je lui dis, si jamais j'y arrive, je l'offrirai du chocolat et je l'ai pas revu depuis. Je pense c'est pas méchant, mais elle doit être à la retraite à cette heure-ci. Et juste, c'est une très bonne retraite en tout cas. Et merci à elle.
Et on la salue aussi.
France Inter, parcours de combattant.
Revenons, si vous le voulez bien, Yacine, à un événement international extrêmement tragique. Nous sommes le 11 septembre 2001 et des terroristes d'Al-Qaïda mènent des attentats suicides coordonnés, causant la mort de 2977 personnes.
L'image est effroyable. Un premier avion a déjà percuté la première tour. Un deuxième appareil se présente, il vise et percute l'autre tour jumelle du World Trade Center. Il est 9h14 à New York. Le Boeing n'a pas dévié sa trajectoire d'un seul mètre. Transformé en kamikaze, il se crache sur le symbole de la toute-puissance économique américaine, les prestigieuses Twin Towers de New York. 40 minutes plus tard, à Washington, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone, le plus stratégique de tous les bâtiments militaires américains. Puis, un quatrième appareil, un 747, s'écrase en Pennsylvanie. Ces 4 avions de ligne détournés provenaient de 3 villes différentes et transportaient 266 passagers.
Vous aviez 16 ans à l'époque,
c'est ça, c'est
en 2001.
Ça.
C'est un événement qui nous a évidemment tous marqués, mais vous encore plus, de voir ces avions que vous rêviez de piloter être utilisés pour tuer des gens.
Exactement. Donc la première fois que j'ai fait ça, je me rappelle, je rentrais d'école et j'avais vu les infos et je me suis dit... Le pilote, soit il y a eu un problème ou autre, mais pour moi, c'était un problème de pilotage, du facteur humain. Et là, quand on voit le deuxième, on dit non, là par contre, deux, ça fait trop et je suis tombé de haut et je me suis dit ça va être très très compliqué pour le monde de l'aviation en soi, pour la confiance, pour que les personnes puissent reprendre les avions. Et puis on compatit amplement pour les victimes et on se dit là franchement, ça c'est quelque chose d'énorme, de gros, d'affreux, quoi.
Et d'ailleurs, ces attentats ont une conséquence concrète sur votre parcours professionnel à un moment donné.
Exactement. Racontez-nous. Alors, il s'avère que justement, j'ai été convoqué moi-même auprès des agents de force de l'ordre, parce que justement, avec le Charlie Hebdo et autres, les policiers sont venus me voir à mon école pour me poser des questions et surtout vérifier qu'il n'y avait aucune crainte pour la suite, en fait.
Et pour quelle raison ils viennent vous voir, vous ?
Après, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était dû à un tweet qui n'avait rien à voir avec moi, parce que premièrement, je n'avais pas Twitter à ce moment-là, et il s'avère que le nom et prénom ne correspondaient pas au mien. Donc ils pensaient faire le lien avec moi, mais ça n'avait rien à voir. Ça avait commencé en Champagne-Ardenne à 3, avant mon départ justement à Montpellier, à l'école de pilote. Et ensuite, quand je suis allé à l'école à Montpellier, ils sont venus pour finaliser, entre parenthèses, leur enquête.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ils me disent, est-ce que j'ai Twitter dans un premier temps ? Je dis non, j'ai jamais eu Twitter, etc. Et après, à Montpellier, ils m'ont juste posé cette question. Et l'un des deux policiers m'a regardé, il s'est excusé, il s'est dit, ils se sont trompés de personne. Et au final, on s'excuse pour toute la gêne qu'il y a eu. On s'excuse auprès de votre prof d'école aussi, donc on vous souhaite la réussite totale de votre formation. Et il m'avait dit à ce moment-là, j'espère pouvoir venir faire un vol avec vous prochainement. Je dis bon, bah, d'accord si vous voulez, mais là j'étais pas du tout dedans en fait.
J'imagine, mais alors, concrètement, on vous fait des reproches, on vous signale des choses. Enfin, c'est quand même étonnant qu'on vienne vous
tout,
chercher.
En fait. On est venu avec des dossiers. Dans ces dossiers, c'était des feuilles blanches. Clairement, c'était pour me faire croire qu'il y avait quelque chose sur moi, mais en fait, il y avait rien du tout et c'était pas la bonne personne. Donc j'ai su ça à Montpellier grâce au policier qui m'a dit clairement, c'était pas vous qu'on cherchait, vous êtes pas la bonne personne et on s'excuse.
Est-ce que ça vous a fait peur pour la suite parcours hein, qu'on ait ce type de signalement? Ou en tout cas d'interrogation sur votre professionnalisme ou sur des dangers entre guillemets que vous pourriez
Clairement ça m'a marqué parce que je me suis dit j'étais bien parti, j'ai tout fait dans les règles, j'ai rien fait de travers, j'ai travaillé, j'ai fait plus de travail que d'autres, donc je comprenais pas pourquoi on venait me voir pour me poser des questions pour alors qu'on me dit qu'il y a une enquête et je n'ai rien fait de grave ni de travers quoi. Mais clairement ça met un coup hein. Et surtout quand on vient à l'école pendant les révisions, oui, là, on se dit, il y a quelque chose de grave ou il se passe quoi, justement. Parce qu'au début, ils m'ont pas trouvé dans les médias. Ils ont fait deux, trois autres écoles. C'est-à-dire que les deux ou trois autres écoles étaient au courant avant qu'on vienne me retrouver dans l'école où j'étais.
Finissons par une note positive. Yacine Boutagan, vous êtes papa, vous le disiez tout à l'heure.
Exactement.
D'une petite fille âgée aujourd'hui de 6 ans.
Mila.
Vous qui avez tant dû vous battre contre le déterminisme, contre les inégalités pour accéder à votre rêve de gosse, qu'est-ce que vous diriez à une petite fille ou à un petit garçon de l'âge de votre fille qui a envie de devenir pilote comme vous ?
Je lui dirais de garder comme objectif la passion et la motivation. Si on a la passion, clairement, à côté, on ne voit pas forcément les contraintes. Les contraintes, on les voit au jour le jour, quand on passe les examens, ou quand on doit réviser, ou quand on doit passer un entretien avec une compagnie. Ça, ce sont des choses à laquelle il faut se préparer. Mais par contre, quand on a la passion et qu'on a des coups de mou, faut pas lâcher l'objectif, faut se dire ça mérite de se battre parce que le résultat qu'on a après, il est amplement mérité. Quand on est fier, on est content, on est le roi du monde, quand on est au-dessus de tout le monde, clairement.
Et on est, nous, heureux pour vous, Yacine Boutagan.
Merci.
Un très grand merci d'avoir accepté de partager avec nous les méandres de votre parcours. Je vous souhaite une vie encore longue, faite de nombreux vols encore dans les nuages et des yeux qui pétillent toujours autant comme vous l'avez aujourd'hui
aussi.
En parlant de votre métier. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous samedi prochain, même heure, pour une nouvelle rencontre de combattants.
She worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just was rocking. Bust down, baby, ain't tired of this. Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight.
She wants the answer that feels so bad to feel nice. But she can't handle that, it comes with a small price.
Yeah, I give, you take. Been keeping track like I'm a train. Even with drip, I'm feeling drained. It's getting long hair like braids, two sides. Either really rude or too nice. So before it goes left, you better move right.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. She just was watching. Bust down, baby, ain't tired of this.
I give again. Show me the play if it's a game. If there's no point, then what's the aim? It's like you're eating off my name. Again, the price of fame is really costing me. Spend again. Nothing in this life comes for free. They say the talk is cheap, furthermore it's free. If I go broke today, will you stay or leave? I felt so hard, so deep, wore my heart upon my sleeve. Every word you say, I just believe, so call me Miss Naive.
Top down, cause she worked hard for it. But blacked out, so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up, and she just was watching.
Trusting of everybody and anybody. Now they fear a bitch like me, cause of the bitch I be. I told you to be careful of me, careful honey.
They call me Miss Naive, I'm still naive. I put trust in all the ones that got me. They never really had me see. If you come fuck with me, be real with me. You got to be careful loving me, careful honey.
Hey, what's this here? You don't know what's that beast there? Me and my heat friend on buddy. I never eat from nobody. I never eat from nobody.
C'était Bust Down de Georgia Smith avec Shaibo. Cette semaine, dans Des Vies Françaises, rencontre avec Nathalie Georges, une femme issue de la haute bourgeoisie que d'importants problèmes financiers ont conduite au sixième étage dans une chambre de bonne. Et ce sont la cuisine et son amour du partage qui lui a permis de tenir le coup.
Au sixième étage, on ne dit pas « je fais un bœuf bourguignon »
Nathalie Georges.
Ou « je fais un lapin chasseur », on dit « je fais des patates avec quoi ?»« Je fais un chou avec quoi ?»
La cuisine du sixième.
Vous êtes un peu dans un autre monde. Voilà.
Vous me direz si je me trompe, Nathalie, mais ce qui vous a un petit peu permis de ne pas glisser quand vous vous êtes retrouvée au sixième étage, donc dans la chambre de bonne où nous nous trouvons, qui fait 6,5 mètres.
Exactement.
C'est cet amour de la cuisine et du partage, donc de recevoir les gens, qui vous a permis de continuer finalement.
Ah, tout à fait. Parce que je me suis aperçue qu'il s'était créé un monde, que les étudiants qui étaient passés par là, ben, ils me rappelaient après, pour me donner des nouvelles.
Parce que c'est les étudiants, vos voisins que vous invitez ?
Absolument. Ce sont que mes voisins. Enfin, bon, j'ai quelques... Non, rares sont les amis qui viennent parce que, curieusement, quand vous devenez comme ça marginal par rapport à leur style de vie, il y en a qui sont très gênés. C'est comme s'ils avaient honte pour vous. Et puis, vous, vous êtes un peu sorti des circuits, vous êtes un peu dans un autre monde. Donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte avec les années que la cuisine avait été une école de vie, un formidable prétexte pour créer des liens et continuer à entretenir des liens avec des humains. Et quand on partage, on dit « bon, ben alors c'est la fin du repas » ou « ils me le disent avant, tu nous diras Nathalie, combien t'en as eu ?» Généralement, quand on se fait des dîners, mais alors super dîner, hein, on en a pour 10 euros par personne. Attendez, une salade de pommes de terre chaude avec une vinaigrette à la moutarde et aux échalotes, c'est absolument délicieux. C'est un des meilleurs plats qui existent et c'est extrêmement simple à faire. Voilà.
Et votre batterie de cuisine, alors, elle se trouve dans le couloir?
Absolument, oui. Ah oui, alors ça, c'est en principe interdit. Hein. Enfin, j'ai une tolérance forcément de la part des propriétaires qui, malgré tout, s'aventurent assez peu au sixième étage, je dois vous le dire. Hein. C'est un monde. Je suis peut-être une des seules personnes à monter par le grand escalier à certains moments et à emprunter l'escalier de service plusieurs fois par jour.
Et vous empruntez le grand escalier pour aller voir
Parce que j'ai ma propriétaire qui habite au cinquième. Puis quand j'étais concierge, je montais le courrier, s'il vous plaît.
C'était déjà dans cet immeuble?
Oui, c'était là, oui. Enfin, ça a été un peu compliqué, je pense, pour certains propriétaires.
De
m'avoir comme concierge, quoi.
Pourquoi?
Parce que probablement qu'au départ, ils considèrent que j'ai ni la tête... j'ai pas l'aspect extérieur d'une concierge, moi je sais pas quoi vous dire. Du coup, ça a quelquefois rendu la vie un peu difficile, on va dire. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai quitté la loge pour retourner uniquement dans mon septième ciel. C'est mon sixième ciel. Parce que forcément, j'avais pris la loge parce que ça m'offrait un logement un peu plus grand. J'avais une petite cuisine, une petite salle de bain. Bon, mais finalement, le sixième est beaucoup mieux.
Pourquoi?
Parce qu'on y est plus libre. Au sixième, on voit le ciel. Et on voit la tour Eiffel. Et ça dope. Plus la cuisine dans le couloir, qu'on peut partager avec les voisins. Alors que les voisins, ils descendaient pas dans la loge pour dîner. Voilà. Ils sentaient pas l'odeur de la soupe.
Et donc, vous êtes remontée au sixième.
J'ai retrouvé ma liberté totale. Et mon réchaud, et mes voisins. Et c'est formidable. Alors, la batterie de cuisine... Ça tient sur un petit meuble de 50 par 50, hauteur 87. Il tient une petite marmite, une marguerite pour le vapeur, le réchaud, trois casseroles, une cocotte, quatre poêles, un grille-pain, deux planches à découper, un petit four. C'est déjà pas mal, non? Voilà.
Qu'est-ce que vous leur cuisinez aux voisins?
Il y a les dîners, quand nous fêtons, soit la Saint-Nicolas, soit les rois, soit un anniversaire. Bientôt l'étage là va être en complet. Donc on va faire un dîner pour se connaître, pour se présenter.
Les gens, ils sont surpris un peu quand ils voient la cuisine.
Certains. Et il faut aller vers les autres, hein, par contre. Hein. Faut pas hésiter. Nombreux sont les voisins, les jeunes qui, au départ, en arrivant, ne m'auraient pas parlé spontanément. Si vous voulez, d'abord, en raison de la différence d'âge. Bon, et puis ils rentrent dans leur chambre pour se coucher. Voilà. Et c'est par une volonté, quand même, et une commodité, mais qui est née après. Parce qu'en dehors des dîners, ce que je vous dis, je fais de la soupe. Alors la soupe, ça sent bon, la soupe. Donc, à ce moment-là, c'est des bols de soupe. Mais les bols de soupe, chacun prend son bol et puis il le mange chez soi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas exagérer, ils ont leur truc à faire. Faut pas être un poids. C'était pas un moyen de les harponner. Vous voyez, c'est très important, ça. Parce que pour eux, quand même, il y en a qui doivent me considérer comme vieille, quoi. Faut être clair. Donc, se dire, putain, la vieille, elle va nous proposer son bol de soupe et après, on pourra pas s'en défaire. Non, c'est pas du tout l'idée. T'as ton bol de soupe, tu viens le chercher, tu le manges dans ta piole, et voilà, et la vie est belle. Quelquefois, j'ai un peu la flemme. Alors, quand les étudiants sont là depuis un moment, ils voient le pack d'eau en bas, ils me le montrent, quoi, et je le retrouve devant ma porte. Il y a de l'entraide, quoi. Mais ça, il faut créer du lien social. Il faut aller vers les autres. Et je répète, la cuisine est une voie royale pour ça. Avec des moyens réduits. Bon, hop, voilà, ça y est, j'ai allumé la lumière. On passe dans l'autre chambre. On y va. Hop.
Et la plaque chauffante, alors, elle est où?
Elle est là-dessous.
Ah, oh, elle est rangée, là. Sous les casseroles.
Ouais. Là, il y a même un sous-plat, vous voyez, hop. Voilà la plaque chauffante, elle est là.
Ah oui. vous cuisinez principalement?
Bah, je cuisine qu'avec ça et on fait vraiment... C'est fou d'ailleurs ce qu'on arrive à faire avec un petit bazar comme ça, hein, honnêtement. Hein. Voilà. On va peut-être déranger à temps, on est désolé. Oui, mon chat, viens. Bon alors.
Alors là, nous sommes sur le plan de travail qui se trouve être au pied du lit, du futon. Toute votre vaisselle est là.
Oui, mais la vaisselle, c'est pareil. Pour rester civilisé, parce qu'on ne peut pas laver les assiettes ici.
C'est trop petit. C'est-à-dire que oui, les...
Non, le lavabo, il est minuscule. Attendez, ouais. Vous rigolez. Dès qu'on a mis une assiette, on fait quoi? Enfin, je veux dire, non. Donc, en réalité, on a quelques assiettes blanches, là. J'en ai 4, 6. Et donc, quand on a nos dîners, on met l'assiette blanche en porcelaine comme assiette de présentation, à l'intérieur de laquelle on met une assiette en carton. Et comme ça, on jette les assiettes et on n'a pas de vaisselle à faire. Par contre, on met des vrais couverts, ça c'est très important, et des vrais verres. Ça fait partie des règles. Là aussi, autrement, vous finissez par manger comme un sauvage. Hein. Je veux dire, ça va très très vite. Hein.
Parce que tout paraît facile quand vous en parlez, mais on est quand même toujours sur un fil.
On est sur un fil. On est sur un fil. Vous voyez bien quand même là. Moi, je sais où tout se trouve, mais bon. Il y a ma trousse de toilette.
Ah hop, oui. Voilà. T'as la boîte à vin.
Une boîte de 6 bouteilles, voilà, il y a ça. Là, il y a le dentifrice, là, il y a la crème machin, là. Tout est là, mais tout va bien. Alors, à chaque fois, en plus, vous faites des haltères. C'est formidable. Vous n'avez aucun souci après, vous faites des haltères. Et ça, c'est la pharmacie à côté. Voilà.
C'est le 6e impôt salois.
Exactement. 6e impôt salois. C'est vraiment ça. Enfin, le coude rouge. Oh. Parmi les plus beaux bruits du monde. Un mètre sérieux.
Des vies françaises, c'est fini pour aujourd'hui. Un deuxième épisode de cette rencontre avec Nathalie Georges est disponible en podcast sur le site franceinter.fr.
Merci Charlotte Perry. Juste après les infos, votre feuilleton des médias francophones publics, une série sur Serge Gainsbourg aujourd'hui, portrait d'un faux méchant. C'est réalisé par Jean-Luc Lehmann, Stéphane Deschamps et Thierry Châtel.